Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'Europe sera-t-elle au rendez-vous de l'urgence climatique? Alors que s'ouvre à Madrid la conférence de l'ONU sur le climat, la COP25, le Parlement européen s'est engagé la semaine dernière à limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Une démarche avant tout symbolique et non contraignante, car il va falloir faire mieux et plus vite. Mais tout le monde ne suit pas, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe, la Pologne, très dépendante au charbon, qui produit 80% de son électricité, n'a pas opéré le tournant attendu. C'est pourtant au cœur du bassin houiller, à Katowice, que s'était tenue la précédente conférence, COP24. Aujourd'hui, malgré les promesses, de nouveaux projets de mines sont même à l'étude dans la région de Silésie, dans le sud-ouest du pays. Les habitants essaient de résister à la mesure de leurs moyens. Écoutez le reportage de Thomas Giraudot dans la ville d'Imieline.
Des forêts, un grand lac, Imieline, c'est comme une oasis de verdure au cœur du bassin industriel silésien. Mais il y a 2 ans, la petite ville a appris qu'un nouveau gisement charbonnier pourrait être exploité au nord-est de la commune, causant la destruction d'espaces verts et la contamination, voire même la disparition progressive de nappes phréatiques. Yann Viedac est le maire d'Imieline depuis 25 ans. Il nous explique cela devant une carte de la ville.
Nous avons 2 grands réservoirs d'eau, celui qu'on voit sur la carte à la surface et un souterrain. Celui sur la surface ne va pas disparaître, mais il y aura une déformation du terrain. Son niveau peut bouger. Quant au réservoir souterrain, c'est de l'eau claire potable. Celui-ci peut disparaître totalement si la mine est exploitée. Or, il fournit de l'eau à plus d'un million d'habitants dans toute la région de Silésie.
La Pologne connaît depuis quelques années de grandes sécheresses, alors ce projet est d'autant plus dénoncé par la mairie. L'entreprise promet des emplois et des compensations financières. Pas de quoi convaincre Jan Viedac. C'est pourtant un ancien mineur, conscient que la Pologne produit encore 80% de son énergie à partir du minerai. C'est justement pour les centrales électriques que le charbon d'Imieline sera extrait.
Pour nous, les compensations représenteraient entre 1,5 et 2 millions de souhaités, jusque 500 000 euros par an. Mais notre commune peut s'en passer. On ne veut pas de cet argent, on ne veut pas de dégâts. Ce n'est plus l'âge d'or des mines comme il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, nous savons que les gisements de charbon seront arrêtés un jour. Ici, les mineurs ont une sorte de proverbe qui dit que la mine, le charbon, pour les uns, c'est une richesse et pour les autres, c'est une malédiction.
Le sol pourrait s'effondrer sous la moitié de la surface de la ville d'Imieline. 4000 habitants voient leur maison menacée par le projet minier, selon l'entreprise elle-même, alors qu'on leur avait promis qu'aucun gisement ne serait exploité autour de chez eux. Irénéouche Gourgnoc, un habitant, nous emmène dans son jardin devant une belle bâtisse d'un étage qu'il a fait construire.
Cette maison a atteint l'âge adulte cette année. Elle a 18 ans. Selon la compagnie minière, le terrain peut s'affaisser ici de 6 mètres. La maison n'est pas préparée pour cela. Si le terrain chute progressivement, cela peut donner des fissures. Car l'exploitation d'une mine, c'est comme des petits tremblements de terre. Mais la maison peut aussi se pencher brutalement. Tout est possible, on ne sait pas. Je connais déjà une personne qui a vendu sa maison ici. Elle ne veut pas passer toute sa vie en procès contre la mine.
En face, l'entreprise minière est un géant, PGG, le plus grand producteur de charbon d'Europe, qui n'a pas souhaité répondre à mes questions et qui n'entame pas non plus de discussion avec les habitants. D'après Thomas Schlamick, l'ancien élu a fondé une association pour lutter contre le projet.
PGG ne nous a jamais traités comme des partenaires. Ils nous regardent de haut. Il n'y a eu aucune consultation avec les citoyens. Chaque année, le président de PGG est invité à rencontrer le maire d'Imieline et les membres du conseil municipal. Depuis 8 ans, il n'est jamais venu, n'a jamais discuté avec eux.
Pourtant, les habitants ont créé 3 associations, recueilli 1300 signatures dans une pétition et envoyé des centaines de réclamations au Bureau national de la protection de l'environnement, chargé de donner son avis sur le projet. Plus à l'ouest, à Rebnik, on se mobilise aussi contre l'ouverture possible d'une mine. Elle ravagerait une forêt, affecterait des routes, une voie de chemin de fer et au moins 500 maisons, dont celle d'Anna Dobrovolska. Elle y vit depuis sa naissance.
Le président de la société minière nous a dit que ça allait être un gisement écologique. J'ai 62 ans et je n'ai jamais vu une mine de charbon écologique. Je pense qu'il a pris les habitants de Rebnik pour des idiots. On ne peut pas prévoir ce qui peut se passer ici. On peut se lever un matin et voir que notre maison est 2 mètres en dessous d'une niveau du terrain. On se sent impuissant, mon mari, mon fils et moi. Nous pouvons juste ramasser nos affaires et partir.
Anna veut arrêter de se chauffer au charbon et passer au gaz. Son voisin, Michał Mroczczak, a lui installé des panneaux solaires. Il a repris en main l'association luttant contre le projet minier.
Sûrement, la ville est assez divisée sur le sujet. D'un côté, il y a les mineurs, leurs familles, qui disent que c'est un bon investissement pour la ville, que la mine va attirer d'autres entreprises. Il y a aussi beaucoup d'habitants qui sont indifférents. Ils ne veulent pas se mobiliser contre le projet. Enfin, il y a ceux qui sont très engagés, mais ces derniers voient que le temps passe. Ils sont déjà un peu fatigués de tout ce combat.
La décision finale d'exploiter ou non ces nouveaux gisements est dans les mains du gouvernement polonais. D'après un rapport de la Commission européenne, 80% des mines de charbon du pays ne sont pas rentables.
Et en Croatie, dans les Balkans, on veut faire vite, trop vite même. Les petites centrales d'énergie propre ont poussé comme des champignons ces dernières années. On en compte 1500 dans le pays. Pourquoi ? Parce que cela rapporte beaucoup grâce aux politiques publiques de soutien, d'où de graves dérives. Les explications de Simon Rico.
Ce n'est pas la faute des investisseurs s'ils se sont enrichis grâce à de trop généreuses subventions de l'État. Voilà ce qu'expliquait en 2017 Alyosha Plejic, président de l'association des énergies renouvelables de Croatie et propriétaire de l'une de ces nombreuses petites centrales privées qui jouissent de tarifs préférentiels pour la revente de leur électricité. En Croatie, l'électricité produite à partir de sources renouvelables est en effet favorisée par un tarif majoré et un tarif de rachat garanti pour les installations de moins de 500 kW. Dans le pays, on compte près de 1500 éoliennes, mini-centrales hydrauliques et centrales biomasse qui bénéficient de plusieurs centaines de millions d'euros d'aides publiques. De nombreux investisseurs se sont empressés de placer leur argent dans le renouvelable, précisément à cause des politiques publiques qui assurent un délai de retour sur investissement éclair, sans demander de contrepartie en termes d'entretien. Grâce à ce soutien précieux, le secteur des énergies renouvelables se porte bien en Croatie et sa part dépasse même les recommandations de l'Union européenne. Fin 2018, 28% de l'énergie consommée dans le pays venait de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien ou de la biomasse. Or, bien des sites naturels ont été sacrifiés pour y développer ces énergies vertes à cause d'études d'impact bâclé ou volontairement lacunaire pour masquer les risques réels d'atteinte à l'environnement. Cela concerne notamment les mini-centrales hydrauliques dont les projets de construction se sont multipliés ces dernières années sur les rivières de Croatie, mais aussi de tous les pays des Balkans. Nombre de ces projets sont situés dans des aires protégées. À Karlovac, par exemple, la ville aux quatre rivières, une centrale a été bâtie en 2010 sur la Dobra. Depuis, la rivière est quasiment asséchée en aval, ce qui a détruit l'écosystème et l'activité touristique verte qui se mettait en place. Les associations écologistes croates dénoncent une vaste opération de greenwashing, financée notamment grâce aux fonds européens.
En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a fait de grandes promesses et pour cause. Son pays est le premier pollueur européen, mais il ne suffit pas de s'engager. Encore faut-il tenir ses objectifs. Et là, on est encore loin du compte. Berlin s'était fixé une réduction de ses émissions de CO2 de 40% en 2020, mais la baisse n'est que de 32% aujourd'hui. C'est pourtant réalisable. Le canton de Barnim, au nord de Berlin, l'a atteint dès 2011 grâce à une politique verte exemplaire. Reportage à Eberswalde, chef-lieu de ce canton écolo, signé Déborah Berlioz.
À Eberswalde, les panneaux solaires sont partout, sur le toit de la mairie, sur les parcs-mètres, et dans le centre, c'est même toute la façade d'un parking de 3 étages qui en est couverte. Devant cette bâtisse, plusieurs bornes permettent de recharger des voitures électriques. Même le siège de l'administration du canton est un modèle d'efficacité énergétique. Ina Bassine est toujours fière de le faire visiter. Elle travaille pour la BEG, une société créée par le canton pour développer les énergies renouvelables.
Ce sont 4 bâtiments qui sont construits avec des matériaux durables. Les façades sont en bois, même si ça ne se voit pas. Et ce bâtiment utilise un puits géothermique pour le chauffage et la climatisation.
Il faut dire qu'ici, l'administration publique prend le tournant énergétique très au sérieux. Dès 2007, ce canton de 180 000 habitants a adopté une stratégie zéro émission. Par la suite, plusieurs entreprises communales ont été créées, comme celle pour laquelle travaille Ina Bassine. Elles aident les communes et entreprises locales à réduire leurs émissions et développent différents projets autour des énergies renouvelables. Pour Thomas Zimon, qui travaille avec Inabassine, l'implication des pouvoirs publics est essentielle.
Dans le passé, la plupart des éoliennes appartenaient à des entreprises extérieures au canton, donc qui ne payent pas d'impôts ici. Ils utilisaient, on peut même dire exploitaient, notre espace, et cela sans ramener de revenus à la région. Cela ne favorisait pas l'acceptation des énergies renouvelables.
À l'inverse, quand les projets sont menés par les autorités régionales, les bénéfices peuvent servir à construire des infrastructures comme des écoles ou des gymnases, sans compter que les communes privilégient des artisans locaux pour réaliser les travaux. Et la stratégie paye. Entre les éoliennes, les panneaux solaires et les centrales de biogaz, quelques 2300 installations produisent de l'électricité verte dans le canton et couvrent 133% des besoins des habitants. Il y a donc un surplus de courant que Thomas Zimon compte bien utiliser.
Stocker l'électricité est difficile. Donc depuis 4 ans, nous accompagnons un projet pour transformer ce surplus en hydrogène dans le canton de Barnim. Cela servira à faire rouler un train régional et nos bus.
La participation des citoyens reste cependant essentielle pour Thomas Zimon. L'année dernière, le canton a donc soutenu la création d'une coopérative énergétique. La structure a reçu 45 000 euros, ce qui permet de financer 2 emplois à temps partiel, dont celui de Madeleine Hanet. Cela lui a permis de lancer ses premiers projets, comme l'installation de panneaux solaires sur le toit d'un petit commerce de la région. La coopérative vend également des modules solaires pour balcons. Les membres de la coopérative peuvent en acheter un pour 333 euros et l'installer directement sur leur balcon. Ces petits panneaux photovoltaïques sont équipés d'un câble et d'un modulateur. L'électricité produite peut donc être directement utilisée dans l'appartement. Madeleine en a déjà vendu 10 et elle est convaincue que ce n'est qu'un début.
C'est quelque chose qui parle aux gens en ce moment, ces tendances de produire soi-même son électricité. Et cela permet d'économiser un peu d'argent. Et c'est attirant d'être plus indépendant du réseau électrique.
Pour assurer la postérité de la stratégie zéro émission, le canton doit aussi embarquer les jeunes générations. C'est indispensable pour Inabassine.
Les enfants sont l'avenir, ce sont eux qui mettront nos idées en pratique et qui développeront les leurs. Donc, nous avons développé une caisse environnement pour les crèches afin d'aborder des sujets comme la préservation des ressources, la forêt, l'environnement ou encore l'énergie.
Si cela éveille des vocations, les jeunes n'auront pas à aller bien loin. À Eberswalde, l'école supérieure de développement durable a ouvert ses portes en 1992. Les étudiants peuvent y suivre différents cursus, allant de l'agroécologie au tourisme durable, en passant par l'aménagement des territoires. Et le canton s'est même associé à des diplômés de l'université pour développer un nouveau projet. Après l'électricité et les transports, ce sont les toilettes que Thomas Zimon veut rendre plus écolo.
À l'avenir, il n'y aura plus seulement des guerres pour le gaz ou le pétrole, mais de plus en plus de guerres pour l'eau. Dans cette mesure, il est très important de réfléchir aux moyens d'économiser de l'eau efficacement, et cela passe notamment par les toilettes. Quand on y pense, à chaque fois que l'on tire la chasse d'eau, on perd entre 6 et 9 litres d'eau potable.
Le but ici est donc d'inventer une nouvelle forme de toilette sèche qui permettrait en plus de récupérer le phosphore présent dans l'urine afin d'en faire de l'engrais. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral adopte un plan climat pour réduire ses émissions de CO2. Un plan bien trop timide, selon Thomas Zimon. Mais il en faut plus pour le décourager et il espère bien que d'autres cantons suivront l'exemple de Barnim.
Et on terminera cette émission sur un livre, un roman graphique qui nous entraîne sur un tout autre sujet. Les tambours de Srebrenica reviennent sur le massacre de Srebrenica en ex-Yougoslavie lorsqu'en juillet 1995, 8000 musulmans ont été exécutés par les troupes serbes. Presque 25 ans plus tard, le BD reporter Elliot Rimbaud et l'ancien correspondant de guerre Philippe Lobjoie reviennent sur ces exécutions qui ont marqué un tournant dans la guerre. Sylvie Noël a demandé à Philippe Lobjoie s'il avait perçu à l'époque l'ampleur et la gravité du drame.
À l'époque, c'était très compliqué d'avoir un véritable sentiment, pour tout vous dire, puisque le massacre a lieu en juillet 95. Le temps que le TPI se mette en marche et qu'on comprenne réellement qu'il y avait eu 8000 morts, ça va prendre quand même un mois ou deux. Donc on est déjà en septembre, il faut attendre que Madeleine Albright, à l'époque, qui était ministre des Affaires étrangères américaine, sorte les photos satellites, où là on comprend qu'il y a eu extermination. Et là, en effet, on sent dès le mois d'août que les chancelleries occidentales se disent « bon, faut faire quelque chose ». Ça va être la création de la force de réaction rapide. La France, la Hollande et l'Angleterre décident de vraiment réagir contre les Serbes. Ça va durer 3-4 mois. Et en fait, après avoir bien tordu le bras aux Serbes de Bosnie, on va les amener aux tables de négociation. Ce sera d'abord Paris et après Dayton, où les accords de paix seront signés en novembre 1995.
Et on voit votre héros qui découvre les affres de la réalpolitik, parce qu'entre ce qui se passe sur le terrain, il y a effectivement les négociations au niveau international qui commencent à se mener avec les Serbes.
Alors pourquoi les chancelleries n'ont pas mis en avant plus que ça Srebrenica ? Moi, je vais mettre quasiment plus de 15 ans avant de le découvrir. Et c'est à partir de 2001, lorsqu'il y aura l'ouverture des procès, enfin un petit peu avant, où là, les enquêteurs vont saisir des carnets intimes, par exemple les carnets de Mladic. Il va y avoir pas mal de choses comme ça, où on va découvrir l'ampleur, en fait, de la conspiration. Parce que je suis pas très fan de ce mot, mais là, il y a une véritable entente entre principalement les Américains, Français, Anglais, sur le fait qu'il faut abandonner Srebrenica pour pouvoir faire la paix et que la guerre de Bosnie se finissent.
Sur le terrain à Srebrenica, on a donc les fameux casques bleus néerlandais.
Alors les casques bleus néerlandais, c'est un peu terrible pour eux, mais l'histoire là-dessus est terrifiante parce qu'elle ne fait absolument pas de cadeau. Vont se retrouver être un peu les sacrifiés de l'histoire, entre parenthèses, parce que les vrais sacrifiés, évidemment, c'est les Bosniaques. Il va y avoir 400 casques bleus hollandais pris dans une nasse, abandonnés par l'ONU, qui ne les soutiendra pas malgré les efforts répétés de faire des bombardements aériens.
Ouais,
l'ONU va
demande.
Totalement les abandonner. Et donc, vous avez 400 casques bleus qui se disent à un moment « Mais qu'est-ce qu'on fait ici ?» Ils ont des milliers et des milliers de personnes face à eux, 25 000, 30 000, qui cherchent refuge pour les protéger. Et en fait, ces casques bleus sont dépassés. Ils ont déjà eu un mort, quand même, qui a été tué lors d'un bombardement. Il y a une sorte de panique totale qui s'impose chez eux et ils vont faire des choses terribles. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire le tri entre les femmes, les enfants et les hommes adultes. Mladic va taper du poing sur la table en disant vous voyez, il y a 200 bus qui sont là pour évacuer tout le monde. Il faut que l'ONU me paye l'essence. Donc l'ONU va payer l'essence qui va servir aux bus qui vont emmener les hommes se faire exécuter dans les champs. Et ça mettra des années avant qu'on le sache. Donc on atteint un niveau hallucinant de cynisme. Et quand ils arrivent en Hollande, ils vont être célébrés une journée. Et en fait, au bout d'une journée, ils vont se rendre compte, et la population va se rendre compte, mais eux principalement, de ce qui s'est passé réellement. Et là, c'est une sorte de tâche absolue pour l'armée hollandaise. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a entaché totalement la réputation de l'armée hollandaise.
Quel bilan 24 ans plus tard ?
Alors, les procès sont finis maintenant. Il y a eu 17 personnes qui ont été condamnées pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Mais c'est simplement les têtes pensantes. J'ai beaucoup parlé avec l'enquêteur principal qui a inspiré le personnage, qui s'appelle Jean-René Ruez, qui a fait tout ça en secret, on va dire, avec le TPI, et qui reconnaît que oui, les gros poissons, comme il les appelle, ont été saisis et ont fait de la prison, mais que tous les exécuteurs, qui sont quand même extrêmement nombreux, eux sont toujours, pour beaucoup d'entre eux, dehors. On en a retrouvé un qui s'appelle Gojkovic, qui vit à Bratunac, qui a participé au massacre. C'était lui qui avait ordonné la mort de 1200 personnes et qui vit avec sa famille, ses trois enfants, ses chats, à 2 km de Srebrenica.
Les tambours de Srebrenica est publié aux éditions Le Nouveau Monde Graphique. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. On se retrouve dès demain sur RFI.
C'est pas du vent.